Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouillez à cause de votre conduite passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté, soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, deux versets simplement qui résument le même enseignement de l'apôtre, les versets 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé le vieil homme avec ses pratiques et revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau qui se renouvelle. Le Nouveau Testament tout entier témoigne que, selon les mots de l'apôtre Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nous l'avons vu dimanche dernier, la foi en Jésus-Christ entraîne une transformation radicale de la vie. Et à la question « qu'est-ce que ça change de croire en Jésus-Christ ?», la vraie réponse c'est « tout ». Ça change tout. Une vie nouvelle est née, un homme nouveau. C'est vraiment d'une nouvelle naissance qu'il s'agit. La conversion à Jésus-Christ, c'est la mort de la vie ancienne et la naissance d'une vie nouvelle, et le baptême en est l'illustration. Vous étiez, voilà ce que vous étiez, voilà ce que vous êtes maintenant, nous disent les apôtres. Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle création. Cela, vous le savez, tous les chrétiens qui ont entendu l'Évangile le savent, et les chrétiens du tabernacle l'ont certainement entendu bien souvent. Mais il y a un autre enseignement de la Bible que vous avez aussi certainement entendu et qui pourtant me paraît oublié de beaucoup de chrétiens. C'est que cet homme nouveau qui est né par la foi en Jésus-Christ est appelé à se renouveler. L'homme nouveau qui se renouvelle, dit l'apôtre Paul. c'est que la nouvelle naissance, c'est un début, c'est un départ, et elle doit être suivie d'une croissance, d'un apprentissage. Or, apprendre, c'est changer. Apprendre, c'est se transformer. Croître, c'est se transformer. Cette croissance implique un changement constant de notre façon de penser et de vivre. C'est à des chrétiens que l'apôtre Paul dit aux Romains, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » C'est à des chrétiens qu'il dit, « Dépouillez-vous du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. » Ce n'est pas à des incroyants. C'est à des chrétiens qu'il dit aussi, « Faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. » Suivre Jésus-Christ, c'est bien sûr partir dans une vie nouvelle, dans une nouvelle direction, mais c'est aussi accepter de se laisser constamment changer et renouveler par lui. Et s'il est vrai que le chrétien est né à une vie nouvelle en Christ, il n'est pas libéré du jour au lendemain de ses anciennes façons de penser et d'agir. Il vit et pense encore parfois selon la chair, selon la pente naturelle de l'homme qui se fie davantage à lui-même, à sa sagesse, qu'à Dieu. Il agit aussi, fréquemment hélas, selon le monde, c'est-à-dire selon les idées reçues et les attitudes de la société à laquelle il appartient et qui nous marque plus profondément que nous ne le savons. Le vieil homme, il faut le faire mourir, non seulement à la conversion, mais tout au long de sa vie. Et j'aime bien cette phrase de Luther qui disait « Je croyais avoir noyé le vieil homme. » L'animal, il a appris à nager. Ça nous fait bien comprendre la nécessité dans notre vie chrétienne d'un renouvellement permanent avec Christ. Ce renouvellement, c'est l'effet de l'action du Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes capables de nous transformer, mais le Saint-Esprit agit avec notre consentement, pas contre notre gré. Il ne s'agit pas d'une croissance automatique qui se ferait sans nous, mais cela ne se fait que dans la mesure où nous acceptons de nous dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, de mettre à mort notre ancienne façon de penser et d'agir pour revêtir celle de Jésus-Christ. Cela implique donc une mort et une résurrection quotidienne, en quelque sorte. Là aussi, c'est une phrase que j'aime beaucoup, elle est du poète Charles Péguy, qui dit « Rien de ce qui est spirituel ne pousse comme les pommes de terre, mais tout croît par mort et résurrection successives. » Cet acte de se dépouiller de ce qui est vieux et de revêtir une nouvelle nature, cette mort et cette résurrection, tout au long de notre vie chrétienne, je crois que c'est au fond ce que la Bible appelle la repentance. C'est la prise de conscience d'un échec. Prise de conscience qui peut venir de la lecture de la Bible, qui peut venir d'une expérience, de ce qu'un frère nous dira. Nous étions dans une mauvaise direction, nos pensées n'étaient pas celles de Dieu. Une prise de conscience qui est donc suivie d'un retour vers le Seigneur, d'un changement intérieur pour partir dans une autre direction. La repentance, ce n'est pas simplement le regret d'une faute passée, le remords. Le remords n'en est qu'une partie, ce serait la tristesse selon le monde, peut-être. La repentance, c'est aussi le fait d'accepter une nouvelle mentalité. Et je crois que la traduction la plus proche, sans doute, dans un français accessible du mot grec qui indique la repentance, c'est le changement de mentalité. La naissance à une nouvelle mentalité. Ça implique un double aspect. Renoncer à une certaine façon de penser et d'agir parce que Dieu nous a révélé que c'était un péché et accepter de naître à une nouvelle façon de penser et d'agir. Accepter de voir les choses autrement comme le Christ nous y engage. Il me semble que dans les évangiles, lorsque nous voyons la manière dont Jésus-Christ conduit ses disciples et les fait progressivement naître à une vie renouvelée, Nous voyons là des exemples concrets de ce qu'est ce renouvellement par la repentance. Je voudrais prendre rapidement quelques exemples. Un jour, Jacques et Jean viennent trouver Jésus pour lui dire « Seigneur, accorde-nous d'être assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Les autres disciples râlent parce que vraisemblablement ils pensaient qu'ils étaient mieux placés pour occuper le premier rang. Mais Jésus leur dit « Ça, c'est ce qui se passe dans le monde. Ceux qu'on regarde comme les chefs des nations font peser leur pouvoir et les grands font peser leur autorité. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais que celui qui veut être le premier se fasse le serviteur de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup d'hommes. » Jésus-Christ nous révèle une autre façon d'agir et de penser à l'égard des autres. Il transforme notre mentalité. Ou encore Jacques et Jean, lorsque Jésus traverse un village des Samaritains et qu'on ne le reçoit pas, les voilà, tout feu, tout flamme, c'est le cas de dire, qui disent « Fais tomber le feu du ciel sur ces gens-là !» Et Jésus dit « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Là encore, Jésus renverse leur façon de penser. Ou l'apôtre Pierre, qui demande à Jésus « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère quand il aura péché contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Et comme nous l'avons vu vendredi à l'étude biblique, la question veut dire « À partir de quand je suis quitte du pardon ? Je suis plus obligé de pardonner. » Et Jésus lui fait comprendre qu'il n'y a pas de limite au pardon. Parce que nous avons reçu de Dieu une grâce immense. Et que ce serait fouler aux pieds la grâce de Dieu que de refuser de l'accorder aux autres. Et on pourrait multiplier les exemples. Quand Pierre prend l'épée pour défendre Jésus, « Remets ton épée au fourreau. » Car celui qui prendra l'épée périra par l'épée. L'enseignement que donne Jésus à ses disciples les fait constamment mourir à eux-mêmes, à leur ancienne façon de penser et de voir, pour naître à une nouvelle vie qui est celle du Christ lui-même, celle de Dieu. Et remarquez aussi qu'à chaque fois, Jésus met bien les points sur les i, mais sans reproche, sans les écraser, mais simplement en leur révélant que ils sont partis dans une mauvaise direction et qu'il faut qu'ils changent s'ils le suivent. Jésus ne nous fait pas de reproche. Ça me fait penser à cette parole de l'apôtre Jacques qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il le demande simplement à Dieu, sans douter, car Dieu donne à chacun sans faire de reproche et généreusement. » Et manquer de sagesse, au fond, est-ce que ça n'est pas tout simplement agir selon la pensée, la mentalité de la chair ou du monde? Et quand nous nous en rendons compte, il n'y a qu'une solution, c'est de le reconnaître, revenir au Christ pour que lui nous apprenne une autre façon de penser et de vivre. Voyez-vous, s'il en est ainsi, si notre Dieu, qui est généreux et ne nous fait pas de reproches, est prêt à nous transformer à l'image de son Fils, alors, la repentance, ça n'est pas une solution de dernier recours, une catastrophe, parce qu'on est obligé de reconnaître son péché, mais c'est le mouvement, le moteur même de la vie chrétienne, la condition de la croissance. L'obstacle au progrès spirituel n'est pas tellement dans nos péchés, dans nos erreurs, mais dans notre refus de reconnaître nos erreurs et nos péchés, et dans notre prétention à continuer à nous diriger par nous-mêmes selon notre sagesse. C'est là l'obstacle. Et c'est pourquoi la première thèse de Luther, qui a été le commencement de la réforme qu'il a clouée sur la porte de l'église de Wittenberg, disait « Quand notre Seigneur et Maître Jésus-Christ nous dit « Repentez-vous », il veut dire que toute la vie des fidèles est une vie de repentance. » La pire des choses pour un chrétien, ce n'est pas sa faiblesse charnelle qui le fait quelquefois tomber, mais c'est son orgueil imbécile qui l'empêche d'admettre qu'il doit encore se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Ce qui est grave, c'est de vouloir nier nos fautes ou de les justifier, c'est de refuser de se repentir, c'est de se trouver très bien comme ça. Dieu peut agir avec le pire des pécheurs,
mais il ne peut pas agir dans celui qui se trouve très bien comme ça et qui ne lui demande rien. Ne nous y trompons pas. C'est un danger réel pour tous les chrétiens de vouloir si bien défendre notre image de marque. Un chrétien ne devrait pas pécher, n'est-ce pas? Alors, nous n'acceptons pas d'admettre que nous sommes comme les autres et que nous avons besoin de confesser nos péchés au Seigneur. C'est un danger réel parce que pour défendre cette image de marque, nous voulons cacher nos faiblesses et nous voulons même les cacher à nous-mêmes. Parce que s'il nous arrive de mentir aux autres, je crois qu'il nous arrive tout autant de mentir à nous-mêmes. Et c'est ainsi que notre orgueil ferme parfois la porte à la repentance, donc au progrès. Je voudrais aussi remarquer, en passant, que cette attitude défensive, cette honte de se repentir, que l'on éprouve quelquefois, et je ne parle pas pour les autres, je parle aussi pour moi, cette attitude-là est fréquemment renforcée par la peur du jugement des frères et sœurs en Christ qui ne suivent pas toujours le Seigneur qui, lui, ne fait pas de reproches. Nous sommes parfois très disposés à en faire et nous renforçons la tendance à l'orgueil des autres, à vouloir se défendre. Par contre, ce qui nous libère, c'est la grâce de Dieu, la miséricorde de celui qui ne nous traite pas selon nos péchés. Devant Dieu, ça n'est pas une catastrophe ou un malheur de se reconnaître pécheur, d'implorer son pardon et de s'ouvrir à une autre vie, à une autre mentalité. Dieu est bon et patient, il prend plaisir à pardonner, nous dit sa parole. Il ne demande qu'à relever celui qui tombe et qu'il appelle à l'aide. Mais l'appeler à l'aide, cela signifie avouer son échec, avouer sa faute, se dépouiller du vieil homme et accepter de revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle constamment à l'image de celui qui l'a créé, Jésus-Christ. Revenir à Dieu quand nous prenons conscience que nous manquons de sagesse, que nous nous sommes conduits comme des imbéciles, en confrontant telle de nos actions ou de nos paroles avec le Christ et son enseignement, c'est pas quelque chose de triste. Parce que c'est plein d'espérance. C'est une bonne chose, une force, une joie. C'est la chance d'un pas en avant avec le Seigneur. Le docteur Tournier nous dit que la foi n'est qu'un retour perpétuel et obstiné vers Dieu, dont on se détourne trop souvent. Cela vous paraît-il excessif? Mais tous nos actes, nos paroles, nos pensées qui trahissent un manque d'amour, et il y en a. Tout cela nous révèle que dans tel ou tel domaine, à tel ou tel moment, nous avons pris une mauvaise orientation. Par conséquent, qu'il faut revenir, donc changer. C'est tout simplement réaliste. Le Christ n'est pas encore formé pleinement en nous, bien qu'il soit à l'œuvre pour nous transformer à son image. Le vieil homme n'est pas tout à fait mort, et tant qu'il bouge encore, tant qu'il n'est pas totalement noyé, nous devons avoir l'honnêteté de le reconnaître et de demander à Dieu de renouveler en nous l'homme nouveau. Nous devons accepter cette repentance toujours renouvelée qui n'est pas un regard en arrière pour se lamenter « Ah, je ne suis pas ce que je voudrais être, j'ai honte de moi », mais bien un regard en avant pour marcher à nouveau avec le Seigneur, plus grand, plus fort, plus vrai. C'est encore le docteur Tournier qui nous dit que le dur chemin de l'échec et de la déception nous conduit souvent plus loin que nos succès. Parce que nos succès nous poussent à dire « je suis quelqu'un de bien, je n'ai pas besoin de changer » et l'homme nouveau cesse de se renouveler, le vieil homme réapparaît tout de suite alors. Tandis que nos échecs nous amène à prendre conscience qu'il faut encore revenir au Seigneur pour que lui noie ce vieil homme et fasse vivre l'homme nouveau que nous avons accepté de devenir quand nous avons cru en Jésus-Christ. C'est dur, parfois, c'est vrai, mais c'est salutaire. Et c'est seulement ainsi que nous pouvons suivre le Seigneur. Et si nous prenons conscience de cela, alors nous comprenons aussi combien nous avons besoin de sa parole. Sa parole qui nous révèle le vrai chemin, qui décape nos excuses, nos faux semblants, qui met à nu nos petites lâchetés, et ça fait mal parfois, mais qui le fait pour que nous puissions être renouvelés à l'image du Christ. Pas pour nous enfoncer, mais bien pour nous relever. Et sa parole qui nous révèle en même temps et toujours à nouveau cette grâce merveilleuse qui nous est accordée en Jésus-Christ et qui nous ouvre à l'espérance. Alors, nous nous rendrons compte que nous avons toujours à nouveau besoin de nous replacer devant la croix où Jésus-Christ est mort pour effacer nos péchés. Mais nous aurons aussi toujours à nouveau besoin d'entendre la merveilleuse nouvelle de sa résurrection, car si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a rien de nouveau dans ce monde, ni dans nos vies. Alors nous serons heureux de nous approcher de la table du Seigneur pour partager la scène, non pas en affirmant que nous sommes de bons chrétiens et que nous en sommes dignes, mais plutôt en reconnaissant que nous avons toujours à nouveau besoin du pardon qui nous est acquis par le sang de Jésus-Christ, qui nous délivre du passé pour que nous puissions vivre d'une vie nouvelle. Et pour que nous recevions toujours à nouveau la promesse merveilleuse de sa présence au milieu de nous, comme il était avec ses disciples, pour les conduire, les instruire, les rendre forts et utiles dans son œuvre. Et puis voyez-vous, quand on apprend chaque jour quelque chose de neuf, quand on va de l'avant, quand on découvre les richesses toujours renouvelées de la grâce de Dieu, alors la vie devient passionnante. C'est infiniment plus intéressant de découvrir quelque chose de nouveau que de tourner en rond dans une forteresse, de rester au même pas, comme ces chanteurs d'opéra qui chantent « Marchons, marchons » en restant sur place. Ça fait penser à certains de nos cantiques, vous ne croyez pas? Oui, la vie est bien plus riche et plus joyeuse quand au lieu de chercher à maintenir nos positions et à nous défendre du jugement des autres ou du jugement de Dieu et à bien polir notre image de marque, nous acceptons de reconnaître nos faiblesses pour naître chaque jour à la vie du Seigneur en nous. Je crois que c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu renouvelle notre jeunesse comme celle de l'aigle. Celui qui est prêt à changer, à apprendre, à aller de l'avant, reste jeune quel que soit son âge. Mais celui qui se trouve très bien comme ça et qui dit « je suis comme ça, je reste », celui-là est vieux quel que soit son âge. Jésus-Christ nous appelle à un renouvellement constant, donc je dirais à une sorte de jeunesse perpétuelle avec lui. C'est une grâce que nous fait le Seigneur en nous appelant à nous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle à l'image de celui qui l'a créé, jusqu'à ce que nous le connaissions parfaitement, que nous le connaissions si bien que nos pensées ne sont plus que les siennes, notre volonté n'est plus que la sienne. C'est une grâce que le Seigneur nous fait, et ce serait une folie de la refuser. J'espère que personne ici ne fera cette folie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, comment ne pas te louer de cet appel à une vie nouvelle que tu nous adresses et que tu nous renouvelles constamment? Comment ne pas nous réjouir, Seigneur, de savoir que tu ne viens pas à nous pour nous faire des reproches, mais pour nous faire repartir avec toi dans une nouvelle direction, dans la vérité. Seigneur, nous voulons à nouveau nous offrir à toi, en reconnaissant que parfois nous nous endurcissons dans notre orgueil, au lieu de te laisser nous toucher, nous parler, nous faire mal peut-être, mais pour nous sauver, pour nous transformer à ton image. Ô notre désir, c'est que le Christ soit vraiment formé en nous.